Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État aux transports. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en duplex, je le précise, de votre ministère. À mes côtés aujourd'hui, pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Jeanne de LCI. Bonjour Adrien. Bonjour. Et puis vous pouvez bien évidemment réagir en direct sur les réseaux sociaux pendant cette émission. Hashtag Le Grand Jury. Elles, les questions seront posées en fin d'émission par Marie-Pierre Haddad. Alors Jean-Baptiste Djebbari, vous êtes donc chargé de gérer l'un des points clés très sensibles du déconfinement, les transports. Et les inquiétudes des nombreux usagers qui seront demain sur les quais, dans les stations de métro, aux arrêts de bus restent vives. À J-1, donc, nous y reviendrons longuement dans la première partie de l'émission. N'est-ce pas le moment ou jamais de porter des mobilités alternatives comme le vélo ? La France accuse toujours un retard flagrant par rapport à nos voisins européens. Et puis le transport, c'est aussi un secteur qui risque de porter longtemps les stigmates de cette pandémie toujours en cours, et notamment les autocars de tourisme. Jean-Sébastien Barraud, président de la fédération qui les représente, vous interpellera dans la question en plus. Le monde de l'aéronautique est déjà fortement impacté, mais jusqu'à quel point ? À quoi faut-il s'attendre ? Pour les compagnies low-cost notamment, les contraintes sanitaires pourraient-elles signer leur fin et celle du voyage à prix réduit ? De tout cela, bien sûr, nous parlerons dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout d'abord, les questions pratiques de ce déconfinement qui commence donc demain. Première question posée par Guillaume Roquette.
Oui, on va revenir très vite sur l'organisation des transports en commun en Île-de-France à partir de demain. Mais on a l'impression que l'attention des pouvoirs publics se focalise uniquement sur ce qui peut se passer en région parisienne. Est-ce que ça veut dire que dans les grandes villes de province, il n'y a pas de risque de sécurité sanitaire ou de saturation dans les trains, les métros ou les tramways ?
Non, c'est vrai que la région Île-de-France, de par la complexité de son réseau et de la densité de la population, est tout à fait ou présente des caractéristiques tout à fait particulières. Nous avons voulu mettre un dispositif adapté à l'Île-de-France, mais pour vous donner un chiffre, vous savez que nous avons, avec l'ensemble du gouvernement et notamment Agnès Pannier-Runacher, mobilisé 10 millions de masques pour les transports en commun, pour accompagner les voyageurs les premiers jours. 4,5 millions de masques vont pour la région Île-de-France, sont distribués en région Île-de-France, et 5 millions sont distribués partout dans le territoire. Donc vous voyez que nous adressons l'ensemble du territoire dans sa diversité. Et je le dis, la stratégie est sensiblement la même. Vous aurez évidemment dans les TER et Transilien environ, en moyenne, 50% du trafic pour les trains du quotidien. C'est vrai en Île-de-France, c'est vrai partout dans le territoire. Et pour le réseau des bus, vous avez en Île-de-France, vous aurez entre 75% et 85% du trafic prévu, ou en tout cas du trafic habituel. C'est à peu près les mêmes chiffres qui vont se déployer en région, 70% au Havre par exemple, 90% à Limoges. Donc vous voyez que nous sommes sur des stratégies similaires et effectivement, les effets de densité et de complexité du réseau se font plus sentir en Île-de-France et c'est bien normal que nous ayons eu une attention particulière.
Avec des spécificités en région, Adrien Gindre.
Jean-Baptiste Djebbari, on a beaucoup de questions très concrètes à vous poser, et une qui concerne encore les régions. On a vu que par endroit, il faudrait se munir pour voyager préalablement d'un coupon en plus du billet, de manière à éviter que les TER, par exemple, ne soient remplis à plus de 50%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va fonctionner ? C'est-à-dire que les premiers arrivés seront les premiers servis. Plus on se manifestera tôt, plus on réservera tôt ce coupon, plus on aura de chances de voyager ?
Je réponds précisément à la question, mais ça renvoie à la stratégie que nous avons mise en place. La stratégie, elle est simple, c'est d'abord le plus d'offres possible. C'est les chiffres que vous connaissez, 75% de l'offre en Île-de-France, 50% en moyenne des TER. C'est de faire en sorte que nous ayons le moins de monde possible au moment des heures de pointe, et ça va répondre en partie à votre question. Ça s'organise avec le télétravail d'une part, et avec tous les dispositifs de lissage ou d'étalement des heures de pointe. En Île-de-France, il a été choisi d'avoir recours à des attestations, je pense que nous y reviendrons. Oui, et effectivement, dans le Nord, il a été choisi d'avoir recours à la demande des élus, à ces coupons qui sont activés par les régions de manière à décharger les trains qui connaîtraient la plus grande affluence. Ce sont des mesures sanitaires, ce sont effectivement des mesures qui concourent à éviter ces effets d'affluence et donc de circulation du virus. Vous savez, ce sont des mesures qui sont difficiles à prendre pour des élus. Elles ne sont pas toujours populaires, ces mesures.
Mais jusqu'à quand
en gestion de crise, la politique, c'est l'art Ben, vous savez que la, la phase que nous ouvrons, la séquence que nous ouvrons commence donc demain, le 11 mai, jusqu'au 2 juin. Et nous allons être très attentifs à ce qui se passe au jour le jour, parce que nous avons une stratégie, nous avons des opérateurs qui sont extraordinairement engagés, et puis nous regarderons très précisément ce qui va se passer le 11, le 12, le 13, le 14. Les jours ne seront pas les mêmes, l'affluence ne sera pas la même, et en lien avec les élus, nous adapterons les dispositifs. Donc moi, j'aborde cette situation avec beaucoup d'humilité, beaucoup de transparence. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les élus également. Et nous adapterons le dispositif au fil de l'eau en fonction de son efficacité réelle et de la réalité de la situation qui prévalera sur le terrain.
Ce système de réservation, en fait, parce que c'est à ça que correspondent les coupons, donc il va être mis en place dans les Hauts-de-France. Est-ce que vous avez des demandes d'autres régions de dispositifs de ce type ?
Alors pour l'instant, ce sont les Hauts-de-France, effectivement, sous l'initiative de Xavier Bertrand, que je salue, parce que je le dis, hein, ces mesures ne sont pas toujours populaires, et en gestion de crise, la politique, c'est parfois l'art de faire quitte à déplaire. Et donc moi, je salue ces initiatives qui ont été prises en région Île-de-France ou dans les régions Hauts-de-France. Mais en l'état, ce que nous avons voulu faire, et ce qui va se déployer dans les jours qui viennent, c'est poser une base nationale, une doctrine sanitaire nationale, et laisser au territoire le choix d'adapter localement les dispositifs.
Mais à votre connaissance,
nous verrons bien si dans les prochains jours d'autres régions font le choix. Non, à ma connaissance, pour l'instant, nous avons ce dispositif particulier dans la région Hauts-de-France, qui, vous le savez, a une particularité, c'est qu'elle a été très touchée par le virus, et qui a une deuxième particularité, c'est qu'elle a un réseau très dense. Donc tout ça s'explique assez bien. Et encore une fois, moi, je salue cette initiative politique courageuse.
Alors, venons-en à Paris et au métro, bien sûr, avec des préoccupations nombreuses. Et vous voulez donc lutter contre une trop grande affluence. Pourquoi alors ne pas avoir fait en sorte qu'il y ait 100% des métros qui circulent et non pas 75% comme c'est prévu aujourd'hui ?
Alors, pour une bonne raison, c'est que vous savez que l'activité s'est arrêtée. On a eu beaucoup de gens qui étaient absents, soit parce qu'ils étaient malades ou qu'ils gardaient leurs enfants. Et vous savez que dans ces métiers de sécurité, il y a des qualifications, il y a des durées d'expiration des qualifications. Et nous avions beaucoup de personnes à la SNCF, par exemple, qui n'avaient pas travaillé depuis plus de 45 jours. Ces gens-là, il faut les reformer. Il y a des matériels qui ont été maintenus, ou en tout cas entretenus, de façon avec des pas de maintenance un peu plus longs. Donc il y a de l'inertie à la reprise dans le monde ferré et dans le monde ferroviaire. Et c'est ça qui explique que nous sommes capables de remonter rapidement à 75%, plus à 100% à l'horizon de la fin du mois de mai, mais qu'il y a cette inertie qui, aujourd'hui, nous fait mettre le maximum d'offres, mais qui ne permet pas d'avoir l'offre à 100% dès le 11 mai.
Guillaume Roquette. Vous nous dites qu'au bout de 45 jours, les conducteurs de train et de métro ne savent plus conduire leur véhicule ?
Non, je dis pas ça, je dis que le monde des transports, c'est un monde extrêmement normé. Vous voyez, moi, mon ancien métier, c'était d'être pilote. Un pilote doit avoir fait 3 atterrissages et 3 décollages dans les 90 derniers jours.
Ben,
c'est
vrai que ça s'applique dans
tout le monde des transports et de la sécurité.
On ne pourrait pas assouplir un peu les normes, parce que c'est quand même la sécurité des Franciliens qui est en jeu. Évidemment, moins il y a de métro et de RER qui fonctionnent, et plus le risque d'encombrement est fort.
Mais vous savez, nous avons assoupli les normes, nous avons prorogé des dates de validité, mais moi j'en viens de ce monde de la sécurité des transports. Et quand vous allez le matin au travail, quand vous vous mettez à la tête de votre métro, de votre train, de votre avion, vous devez être en parfait état de fonctionner et d'opérer votre moyen de transport. Et c'est pour ça qu'on a ces mesures de sécurité qui sont extrêmement importantes. Nous les avons assouplies pour partie, mais nous ne transigerons jamais sur la sécurité. C'est d'ailleurs des normes qui sont bien installées dans notre droit. Et nous avons voulu concilier un peu ces deux impératifs, la sécurité et la souplesse, ce qui fait que nous avons une bonne offre. 75% en Île-de-France, c'est une bonne offre. Et nous sommes en mesure de l'augmenter rapidement. Mais je le dis, pas plus maintenant qu'avant, que demain, nous ne transigerons sur les normes de sécurité.
Adrien Gindre.
Jean-Baptiste Gibari, si on a bien compris, vous misez dans le réseau francilien à partir de lundi sur une fréquentation de 15% pour que les choses se passent normalement, convenablement. S'il y a plus de voyageurs qui se présentent, qu'est-ce qui se passera ? Est-ce que ça veut dire que vous en refuserez certains ? On a d'ailleurs du mal à comprendre pourquoi, s'il faut étaler les voyageurs, on a pris la décision de fermer 60 stations. Ça veut dire que les voyageurs vont devoir se concentrer, passer par les autres nécessairement, et y compris rallonger leur trajet pour ceux qui ne peuvent pas faire leur correspondance habituelle.
Bon, d'abord, il faut bien comprendre qu'on a parlé effectivement de beaucoup de chiffres, mais que tout ça n'est pas scientifique. Ce qu'on va faire, notamment pour les réseaux les plus fréquentés, on va faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on va organiser la sécurisation et le filtrage d'un certain nombre de stations. On va fermer les stations pour être en mesure de mieux contrôler les flux. 62 stations fermées en Île-de-France. Et on va contrôler partout sur le territoire quasiment 400 gares. Et ça, donc très prosaïquement, vous aurez des filtres avec des forces de sécurité intérieure, avec des personnels des opérateurs, de manière à contrôler que l'afflux des personnes qui vont en station, qui vont en gare, est mesuré et qu'on n'observe pas des effets d'engorgement et de congestion. Nous allons vérifier ça heure par heure, même minute par minute, dans des PC de déconfinement qui ont été montés par la SNCF et la RATP. Je m'y rendrai d'ailleurs juste après. Et quand nous observerons des effets d'affluence, d'engorgement, de congestion, nous tenterons de les réguler avec les personnels qui sont dans les stations. Et tout ça n'étant évidemment pas scientifique, nous prendrons des mesures de gestion des flux en temps réel. Et si nous devons fermer une ligne de métro, une ligne de bus, un quai...
Mais Jean-Baptiste Barry, vous dites que ce n'est pas scientifique. Si vous dites que ce n'est pas scientifique, ça veut dire que vous dites 15 à 20% de fréquentation. D'autres disent que ça peut être 40 à 50% de fréquentation. Est-ce que c'est un chiffre qui est plausible demain?
Non mais Monsieur Sportouche, je pense que vous comme moi, nous prenons le métro, donc nous voyons bien ce que ça veut dire d'être dans le métro. Et même si les flux seront demain plus ordonnés, on voit bien que tout ça n'est pas scientifique au sens où c'est bien la réalité du terrain qui déterminera les mesures que nous allons faire pour adapter les éventuels problèmes que nous rencontrions.
Donc, mais Jean-Baptiste Gébarry, vous dites,
les personnels sont extraordinaires.
Vous dites, si les mesures ne sont pas respectées, nous n'hésiterons pas à fermer des stations ou des lignes. Est-ce que la réponse la plus logique, ce ne serait pas au contraire d'augmenter l'offre? Parce que si les gens ne sont pas en mesure de respecter la distanciation sociale, est-ce que la bonne conclusion ne serait pas plutôt de se dire qu'il faut rajouter des métros, rouvrir des gares supplémentaires? Parce que les gens qui, a priori, vont se présenter en transport en commun lundi, ont la nécessité de se rendre au travail.
Je vais vous embaucher au ministère des Transports parce que j'ai commencé par là. J'ai dit que stratégie, c'était trois points. Un, augmenter l'offre le plus possible. Donc 75% le 11 mai et très rapidement vers 100%. Oui. On l'a dit. Alors la logique est un peu différente sur les trains longue distance parce qu'on va éviter la circulation du virus. Mais pour les trains du quotidien, pour le TER, le métro, les transiliens, c'est bien l'objectif d'avoir le plus tôt possible 100% des trains. Vous l'avez dit. Minimiser le nombre de voyageurs dans les trains, ça c'est tout ce qu'on fait au travers du télétravail et du lissage des heures de pointe, et prendre des mesures sanitaires strictes, le port du masque, le nettoyage, la désinfection, et ces mesures de régulation que nous avons évoquées. Vous voyez, tout se tient. Et je dis juste que dans un moment de fragilité sur le plan sanitaire, l'impératif qui s'impose à nous, c'est la sécurité des Français qui circulent.
Et
je dis juste que si dans un métro, dans une ligne de bus, on observe ces effets d'affluence, et je finis par là, si on observe ces effets d'affluence, il est plus sage de fermer, quitte effectivement à ce qu'on ait un peu moins de transport en commun pour un temps, mais qu'on ait préservé la santé des Français. Il est plus sage de fermer plutôt que d'observer ces effets d'affluence et donc possiblement ces effets de propagation du virus.
Et dernier, de faire des questions courtes pour avoir des réponses plus courtes.
Voilà, question courte. Pourquoi nous annoncez-vous 75% des transiliens et 50% seulement des TER demain?
Parce que nous avons étudié la bonne offre par rapport à l'affluence prévue région par région. Nous avons une affluence attendue en Île-de-France qui se situe effectivement entre 15-20%. Nous avons une affluence en région qui est un peu plus faible. Et donc nous avons construit avec la SNCF et les régions la bonne offre en fonction de la demande qui est attendue. Tout ça évidemment sera observé jour après jour et adapté jour après jour, mais c'est comme ça que nous avons construit l'offre du 11 mai et des jours d'après.
Alors, le masque sera donc obligatoire dans les transports à partir de demain, Jean-Baptiste Djebari, et les transporteurs comme Keolis, comme la RATP vous disent pourquoi cumuler les deux, le masque et la distance physique de 1 mètre. Ils disent que ce n'est pas nécessaire, que cela permettrait de transporter davantage de voyageurs. Est-ce que vous vous couvrez quelque part? Est-ce que ce n'est pas un principe de précaution à l'extrême, à l'excès?
Non, c'est un... Je le dis vite, mais je le dis fortement, c'est un choix politique. Et vous savez, l'Italie a fait le même choix. À Rome et à Milan, elle a imposé le port du masque et la distance d'un mètre. Sachant que tout ça, effectivement, est compliqué à organiser et que j'ai essayé de vous expliquer comment nous allions le réaliser ensemble. Mais oui, c'est une mesure sanitaire. Ce sont des mesures sanitaires strictes parce que nous constatons la fragilité de la France sur le plan sanitaire. Nous voulons absolument éviter que les transports en commun soient des vecteurs de propagation. Et donc, nous assumons politiquement de mettre en œuvre ces mesures strictes. Et moi, je salue l'ensemble du travail qui a été réalisé de bonne foi avec les élus de tous bords, avec les opérateurs, avec les fédérations d'employeurs et les syndicats. Tout ça est un travail collectif. Le résultat sera, j'espère, à la hauteur de l'engagement. Et en tout cas, je salue encore une fois cet effort collectif qui a été fait ces
dernières années. Adrien
Gendre. Jean-Baptiste Djebbari, vous avez, vous, gouvernement, finalement accepté la proposition de la présidente de la région, Valérie Pécresse, d'une attestation employeur dans les transports franciliens. La semaine dernière, Christophe Castaner, ici même, avait pourtant dit non. Est-ce que ça y est? Est-ce qu'elle est en ligne? Est-ce qu'elle est accessible? Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes du côté des entreprises qui doivent délivrer cette attestation, qui doivent permettre à leurs salariés de l'avoir. Et est-ce qu'on aura, dès demain, une amende 235 euros si on n'est pas en mesure de la présenter?
Alors, l'attestation est en ligne depuis hier soir à 18h. Je vous invite à la télécharger et à essayer éventuellement d'utiliser. Et s'agissant des contrôles, les contrôles seront mis en place à côté de mercredi prochain, donc le 13, les contrôles et les éventuelles sanctions. L'idée, vous comprenez bien, c'est pas de dresser devant chaque francilien le parcours du combattant. L'idée, c'est d'avoir un mécanisme robuste qui permette d'étaler les heures de pointe et d'avoir une période d'accompagnement lundi, mardi, de manière à ce que les choses se fassent et que les employeurs n'abordent pas cette situation avec un stress supplémentaire qui serait le fait de voir leurs salariés arriver et d'être tout de suite astreint à des contrôles et à des amendes. Donc nous le faisons progressivement. Attestation disponible, contrôle à partir de mercredi, pédagogie lundi et mardi, et les choses se feront sereinement.
Guillaume Roquette.
Et pour le port du masque, dont on rappelle qu'il est obligatoire dans les transports en commun, est-ce que là aussi le tandem contrôle-amende interviendra à partir de mercredi?
Non, le tandem contrôle-amende est prévu à compter de demain. Là aussi, de la pédagogie, de la distribution des masques d'appoint. Je le disais, 10 millions de masques. 4 millions de masques qui sont 4 millions et demi de masques qui vont être distribués en Île-de-France, des compléments par la région, les élus très mobilisés et de la pédagogie. Parce que vous savez, dans tout système ou dans toute stratégie humaine, il faut à la fois de la confiance et du contrôle, pour ne pas paraphraser.
Et en cas de récidive, Jean-Baptiste Djebbari,
mais si ça marche comme ça, il faut qu'il y ait...
Pendant le confinement, il y avait une augmentation du coût, du montant de ces amendes en cas de récidive. Est-ce que ce sera la même chose pour les attestations et pour le non-port du masque?
C'est un sujet dans la main du ministère de l'Intérieur. Je n'ai pas d'ailleurs cette information-là immédiatement sous la main. Mais l'idée, vous comprenez bien, c'est de susciter l'adhésion, d'avoir en responsabilité des gens qui se procurent des masques, que l'État soit accompagnant les premiers jours. Et je crois que nous mettons les moyens pour que des masques soient disponibles à l'entrée des stations dès demain. Et l'idée, c'est qu'effectivement, ceux qui refuseraient de porter le masque, ceux qui seraient dans une stratégie individuelle, qui viendrait finalement ébrécher le dispositif collectif ou la sécurité collective, il est normal que ceux-ci puissent se voir refuser l'entrée des systèmes de transport en commun et voir sanctionner le cas échéant.
Mais
je crois que tout le monde a compris que nous recherchons ici la responsabilité de chacun.
Mais alors vous cherchez la responsabilité, Jean-Baptiste Djebbari, mais vous devez aussi contrôler. La PDG de la RATP, Catherine Guillouard, a réclamé 1500 à 5000 personnes supplémentaires pour surveiller le réseau et justement l'accès avec masque. Est-ce qu'elle aura ce nombre de forces supplémentaires qu'elle demande?
Alors, je le redis très, très concrètement ici, nous contrôlons, nous sécuriserons et nous filtrerons plus de 380 stations et gares partout en France, une centaine environ en Île-de-France. Nous aurons plus de 1000 forces de l'ordre mobilisées pour la région Île-de-France pour les transports en commun et plusieurs centaines d'opérateurs de sécurité, notamment de la RATP et de la SNCF, des prestataires privés pour aider, pour faire en sorte que ce dispositif il tienne. Mais oui, les moyens des forces de sécurité intérieure ont été mises en œuvre par la préfecture de
police. Mais vous pouvez pas nous dire combien de renforts supplémentaires?
Qui a fait un travail compliqué.
Jean-Baptiste Djebbari, vous pouvez pas nous dire combien de renforts supplémentaires?
Je lis plus de 1000 forces de l'ordre.
Plus
de
1000 forces de l'ordre. Donc elle n'aura pas plus que
300.
D'accord.
Non, mais ça a été construit avec elle, monsieur Sportouche. C'est-à-dire que nous avons construit avec Catherine Guillouard et d'ailleurs tout le monde, à la fois le nombre de stations fermées, les scénarios de trafic et le nombre de forces de l'ordre. Donc tout ça aujourd'hui est collectivement accepté pour être transparent avec vous.
Adrien Gendre.
À la station Châtelet-Léal, des caméras permettront également de voir le nombre de voyageurs qui portent ou non un masque, même si ce n'est pas destiné à des sanctions individuelles. Est-ce que vous considérez que c'est un dispositif qu'il faut étendre aussi largement que possible?
D'une manière générale, le ministère des Transports supporte toute initiative ou toute expérimentation qui concourrait à renforcer la dimension sanitaire, en tout cas la protection sanitaire des personnes dans les transports. Donc c'est vrai, nous soutenons cette initiative dès lors qu'elle est conforme évidemment à la CNIL et aux libertés individuelles, à l'anonymisation des données. Donc nous soutenons tout ça. C'est vrai aussi dans les aéroports. Vous avez ADP qui va mener des expérimentations sur les caméras thermiques. Nous les soutenons. Vous savez qu'Air France, à compter de lundi prochain, donc demain, met en place la prise de température avant d'embarquer à bord. Tout ce qui concourt à la sécurité sanitaire, le ministère des Transports le soutient dès lors que cela se passe dans le cadre du droit.
Puisque vous parlez de sécurité sanitaire, une question qui peut paraître basique ou candide, mais Jean-Baptiste Djebari, est-ce que vous allez faire des relevés réguliers dans le métro, sur ces installations, sur ces sièges, notamment pour repérer une éventuelle présence du virus ?
Alors, c'est une très bonne question parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines maintenant, j'ai demandé un effort considérable pour que, sur le plan du nettoyage et de la désinfection, la RATP, la SNCF, l'ensemble des opérateurs de transport fassent des efforts considérables et durables sur le plan de la détection et du nettoyage. Ces efforts sont faits et je dois dire que on est aujourd'hui dans une autre étape.
Et ça coûtera
vraiment
combien ?
Dans un autre monde sur le plan de la sécurité sanitaire. Les opérateurs. J'y viens. Les opérateurs utilisent des produits virucides. Dans les avions, ça permet de contrôler l'environnement pendant une dizaine de jours. C'est donc absolument, c'est un pas considérable. Il y a un surcoût à tout ça. Le surcoût, nous l'objectiverons en fin de crise. Et cela sera à rediscuter, effectivement, avec les autorités organisatrices. Mais je le dis, c'est un pas considérable, c'est un progrès considérable. Ça a un surcoût, il est indéniable. Mais c'est aussi le prix de la sécurité des Français.
Mais vous nous dites que ces produits virucides,
ce surcoût-là, il sera objectivé et discuté avec les autorités.
Ces produits virucides sont efficaces pendant 10 jours.
C'est le principe, c'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que les systèmes de transport permettent effectivement, aujourd'hui, sont mieux nettoyés, désinfectés de façon régulière, des produits virucides sont apposés. Certains systèmes sont ventilés avec des filtres, je pense notamment aux avions, mais c'est vrai aussi dans les TGV, par exemple. Et je pense que nous allons faire de grands progrès dans les années qui viennent, parce que par construction, et ça a été le cas dans l'aéronautique au début des années 2000 suite aux attaques terroristes, par construction, on va prendre en compte ce risque sanitaire beaucoup plus que jusqu'à présent et on verra les métros être construits de façon un peu différente, les trains, les TGV. Et donc nous allons progresser collectivement du fait de cette crise aussi.
Adrien Gindre.
La maire de Paris, Anne Hidalgo, envisage de demander la circulation alternée si jamais le trafic automobile est trop intense à partir de demain. Ça pourrait aussi avoir pour conséquence de renvoyer certaines personnes en direction des transports en commun. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Bon, d'abord, c'est une hypothèse qu'on avait étudiée ici au ministère des Transports. Nous ne l'avons pas retenue en lien avec la région parce que nous avons préféré organiser le télétravail pour minimiser l'affluence dans les transports en commun et dans les véhicules individuels. Nous avons par ailleurs soutenu beaucoup Anne Hidalgo sur la mise en place de pistes cyclables temporaires. Mais je rappelle quand même qu'en Ile-de-France, vous avez 36% des Franciliens qui travaillent à plus de 15 km de leur domicile. Donc il faut bien réussir à trouver un bon degré de cohabitation entre le véhicule individuel et le vélo, par exemple, même si nous soutenons de façon très très volontaire le vélo. Et je le dis, nous regarderons les jours prochains l'état du trafic et nous serons en mesure d'adapter le dispositif
si c'est nécessaire
dans les jours qui viennent. Mais en l'état, nous n'avons pas retenu, en tout cas pour la première semaine, nous n'avons pas retenu ce dispositif de la circulation alternée.
Guillaume Roquette.
Alors justement, pour les automobilistes, comme les règles et les contrôles sont à la mode en ce moment, est-ce qu'il y aura un nombre maximum de gens qui pourront monter dans la même voiture compte tenu des règles de distanciation physique qu'on connaît ?
Alors nous l'avons organisé, sécurisé notamment pour le covoiturage. Ces règles sont les mêmes que celles qui s'appliquent au transport en commun. Tout le monde porte un masque et en fonction c'est vrai pour les taxis du reste, c'est en fonction de la présence ou non d'une paroi entre le conducteur et les passagers, vous pouvez avoir un ou deux passagers. Tout cela est prévu dans le décret qui va paraître. Les opérateurs sont évidemment informés. Et après, c'est à chacun de s'organiser. Dans un véhicule individuel, vous avez tendance à voyager en famille ou avec des gens que vous connaissez. Encore une fois, ces stratégies-là, vous comprenez bien qu'elles doivent susciter l'adhésion de tout le monde. J'ai vu votre article, Monsieur Roquette, sur la pédagogie, ou en tout cas la demande de non-infantilisation des Français sur ces sujets. Je crois que vous avez raison. Et que vous voyez bien qu'en grande partie, notre stratégie, elle consiste à faire preuve de bon sens et à laisser les Français agir avec bon sens, dans le cadre des mesures sanitaires qui sont
édictées depuis quelques semaines. Et ce décret paraîtra quand, avec tout ce détail ? Ce décret paraîtra quand, Jean-Baptiste Djebari, dont vous parlez, parce qu'il y a beaucoup de détails.
La loi, elle va être promulguée dans la journée, puisque nous avons contresigné chacun des ministres la loi ce matin. Donc j'imagine que le président va la promulguer dans la journée, et le décret suivra, donc très certainement en fin de journée au journal officiel.
Donc pour être
Mais
sûr,
je le dis parce que le contenu du décret est évidemment connu et coordonné dans son principe et dans ses modalités avec les opérateurs.
Guillaume Roquette.
Vous voyez bien que tout ça n'est pas un travail en chambre dans les palais dorés de la République.
Pour être sûr d'avoir bien compris, si j'ai donc deux voisins qui vont dans la même destination que moi et qui ne peuvent pas télétravailler, on peut être trois dans la voiture.
C'est votre responsabilité. Nous vous recommandons évidemment de porter un masque. Cela ne relève pas des transports en commun. Mais j'imagine que en liberté et en responsabilité, vous déciderez de porter un masque et que vous cheminerez ensemble en toute sérénité, Monsieur Roquette.
C'est l'heure de la question en plus avant de parler des transports aéronautiques.
Le grand jury, la question
Monsieur
en plus.
Le ministre, bonjour, Jean-Sébastien Varraud, président de la FNTV. Monsieur le ministre, vous le savez, le transport, c'est aussi, on en parle peu, des milliers d'entreprises et des dizaines de milliers d'autocars qui assurent un service absolument essentiel pour des millions de nos concitoyens, parmi lesquels plus de 2 millions d'élèves dans les zones rurales ou périurbaines. Certaines de ces entreprises qui assurent du transport scolaire ou touristique sont aujourd'hui menacées. Que pouvez-vous dire, monsieur le ministre, à ces entreprises qui se sentent souvent oubliées et qui auront impérativement besoin d'être soutenues dans les mois qui viennent? Je vous remercie.
Et je précise, Jean-Baptiste Barry, que la demande, notamment, c'est l'annulation pure et simple des charges et non pas leur report.
Bon, d'abord, je connais très bien Jean-Sébastien Barraud, que je salue. Trois choses. D'abord, sur le transport scolaire. Vous savez que le transport scolaire redémarre, même partiellement, à compter du 11 mai, et que là, nous retrouvons une dynamique d'activité. Pour les transports privés, j'ai demandé à ce que l'ensemble des entreprises de transport privé, notamment ceux qui vivent des sorties touristiques ou des sorties scolaires, puissent bénéficier du plan de soutien particulier au secteur du tourisme. Et Bruno Le Maire y reviendra, mais nous mettrons évidemment tous les moyens pour les soutenir. Puis après, vous avez les cars Macron qui, eux, sont aussi impactés par la limitation des trajets au-delà de 100 km. J'ai eu l'occasion d'échanger avec eux hier. Il est évident que tant que la situation sanitaire ne permet pas à nouveau de circuler plus librement, leur modèle économique, notamment le remplissage d'un siège sur deux, ne leur permet pas de continuer ou de recommencer à opérer et qu'eux aussi bénéficient de l'ensemble des mesures que vous connaissez parfaitement bien. Et ils m'ont dit à quel point l'État avait, comme ils le disent, fait le travail, fait le boulot sur l'activité partielle, le chômage partiel, le report des charges et tout ce que vous connaissez parfaitement.
Alors, autre secteur d'activité qui pâtit de cette crise, bien évidemment, c'est l'avion. Et 9 compagnies aériennes vous demandent, Jean-Baptiste de Djebari, de rouvrir Orly. L'aéroport d'Orly qui est donc fermé depuis le début de cette crise. Et ils vous demandent maintenant de trouver une date, de fixer cette date au 26 juin, date de réouverture de l'aéroport d'Orly. Que leur dites-vous aujourd'hui ?
Bon, j'ai eu l'occasion d'échanger avec ces compagnies à de nombreuses reprises. Je leur dis trois choses simples. D'abord, il y a deux préalables à la réouverture. Un, c'est que la situation sanitaire s'améliore et continue de s'améliorer. Deux, c'est que nous trouvions ou que nous harmonisions les mesures sanitaires avec nos voisins européens et méditerranéens. Chacun comprend que si chacun a sa mesure dans son coin, ça ne marchera pas. Et à ces conditions, et si les opérateurs nous proposent un programme de vol solide, et je leur ai demandé de produire un programme de vol pour le 15 juin, nous devrions être en mesure de rouvrir Orly le 26 juin, mais je le dis, c'est si l'ensemble de ces conditions sont réalisées.
Donc vous leur dites, a priori, le 26 juin, c'est possible. On part sur cette date.
Si la situation sanitaire est bonne, en tout cas en amélioration, si les mesures sont établies, et nous faisons un travail considérable avec nos homologues européens, je parle encore à mon homologue anglais en fin de journée, si nous arrivons à harmoniser les mesures sanitaires, chacun comprendra pourquoi, et évidemment si le programme est solide, parce qu'il faut qu'ADP puisse s'organiser et que le programme solide égale disponible, commercialisé, et qu'on ait des vols juste suffisamment remplis pour que cela ait du sens.
Juste avant la pause, Guillaume Roquette.
Ça veut dire concrètement que si ces conditions sont réalisées, nous pourrons à nouveau commander des billets d'avion à partir du 26 juin.
Ben vous avez vous-même dit si, donc effectivement si toutes ces conditions sont réalisées, les billets seront commercialisés. Mais vous voyez que les conditions que j'ai posées sont quand même assez fortes. C'est amélioration de la situation sanitaire, coordination des mesures et des calendriers au niveau européen et évidemment production d'un programme de vol qui soit solide, robuste et commercialisé.
Jean-Baptiste Djebari, Orly, ça veut dire vacances, destination du Sud. À quel moment vous prendrez cette décision de réouverture pour le 26 juin et à quel moment pourra-t-on prendre donc des billets dans la perspective du 26 juin ?
Eh bien, le Premier ministre et le Président de la République ont été très clairs sur le sujet. Très rapidement, nous aurons fin mai, début juin, une vision beaucoup plus claire de la situation sanitaire et des projections que nous pourrons faire sur à la fois le mois de juin et l'été. Donc rendez-vous fin mai, début juin pour prendre toutes ces décisions.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury de Jean-Baptiste Djebari. À tout de suite.
Attention, série culte ce soir sur Téva. Dynasty, le remake de la série des années 80, est de retour pour une deuxième saison inédite. Entre les deux familles les plus riches des États-Unis, la lutte pour le pouvoir s'intensifie. Les Carrington sont plus que jamais déterminés à se relever et à reconstruire leur dynastie. Dynasty, saison 2 inédite, ce soir à 20h50 sur Téva.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'actualité avec vous, Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Nous posons une doctrine nationale pour les transports publics aux élus locaux d'adapter les dispositifs à leur territoire. Déclaration de Jean-Baptiste Djebari, invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, le secrétaire d'État aux transports, qui estime plus sage de fermer certains transports si une affluence trop importante est observée à partir de demain, date du début du déconfinement. Jean-Baptiste Djebari qui annonce par ailleurs que les contrôles liés au port du masque dans les transports et à la détention d'attestation aux heures de pointe débuteront mercredi. Demain, 75% des Transiliens et 50% des TER circuleront. La France se prépare donc à se déconfiner. Dans ce contexte, un nouveau foyer de contamination du coronavirus détecté dans la Vienne, département pourtant classé vert. 4 personnes testées positives au Covid-19 après avoir participé à une réunion de pré-rentrée dans un collège. Ces cas s'ajoutent à la dizaine détectée en Dordogne ces derniers jours, après un enterrement. Le déconfinement ne doit pas rimer avec relâchement, rappelle la préfecture de Nouvelle-Aquitaine.
Aujourd'hui, assurer un monde plus ouvert, c'est aider celles qui sont prisonnières du danger. C'est pourquoi CNP Assurance a décidé d'offrir cet espace publicitaire à une fondation qu'elle est fière de soutenir. La Fondation des Femmes, pour les femmes en situation de danger chez elles. Pour faire un don, rendez-vous sur fondationdesfemmes.org.
Pierre, vous faites quoi cet été ?
Ah, mais je vais bien sûr profiter de ma véranda Rénoval, y recevoir mes amis, déjeuner, travailler et regarder les arbres pousser. Eh oui !
Rénoval, plus de 35 ans d'innovation. Un réseau d'experts agréés pour concevoir et poser votre véranda personnalisée.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Salut, c'est Bruno Solo. Vous le savez, il y a plus de 50 ans, l'Innoventura a créé Personnage pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées mentales et à leurs familles. De la place dans nos cœurs, de la place dans la société et de la place pour les accueillir dans des maisons de vie. Aujourd'hui, Personnage continue le combat de l'Innoventura et vous lance cet appel. Faites place. Faites place à ceux qui ont besoin plus que jamais qu'on les regarde, qu'on les respecte et qu'on les soutienne.
Face au coronavirus, les personnes en situation de handicap sont en première ligne, tout comme les équipes d'éducateurs et de soignants qui, jour après jour, les accompagnent. Alors faites place à la solidarité.
Faites place sur personnage.org.
Merci.
Grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le secrétaire d'État aux transports, Jean-Baptiste Djebari. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Jean-Baptiste Djebari qui est en duplex depuis son ministère, d'où ce petit laps de temps à chaque fois entre nos questions et nos réponses, je le précise pour nos auditeurs de RTL. À mes côtés toujours donc Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre. Adrien Gindre qui vous pose la première question de cette seconde partie.
Jean-Baptiste Djebari, pendant le confinement, certaines images d'avions bondés ont beaucoup fait réagir. On a parlé longuement en première partie de la distanciation sociale dans les transports en commun. On parlait là du train, du métro. Est-ce que cette règle a vocation à s'appliquer également dans les avions? On a bien saisi qu'il y avait des systèmes de filtrage d'air dans les avions, mais on peut très bien avoir un voisin malade juste à côté de soi, auquel cas la contamination paraît difficile à éviter sans distanciation. Qu'est-ce que vous en dites?
Alors, plusieurs points rapides. Premier point, dès que j'avais demandé à Air France d'avoir le taux de remplissage le plus maîtrisé possible. Et aujourd'hui, les taux de remplissage sont de l'ordre de 45 à 50% dans un moment où peu d'avions volent. Et donc, Air France est attentive à maintenir ce taux de remplissage moyen de 50%. Il est évident que ce taux de remplissage moyen, il est praticable tant que nous sommes en phase d'activité très réduite, mais il n'est pas praticable à grande échelle parce que le modèle économique, la rentabilité économique, elle débute environ à 75% de remplissage. Donc nous allons rechercher là-dessus, une coordination avec les pays européens. Nous avons un axe politique avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et chacun s'accorde à dire que les mesures sanitaires qui sont proposées, port du masque obligatoire dans l'avion, effectivement le système de filtration qui est tout à fait particulier dans les avions, et puis l'ensemble du parcours passager doit permettre d'avoir un bon niveau de protection sanitaire. Mais je le redis, je vais demander à Air France d'agir très vite, et Air France a pris des mesures, je le disais encore tout à l'heure, à compter de demain, elle prendra la température des passagers, pourra leur refuser l'embarquement en cas d'une température excédant 38 degrés. Et je crois qu'il y a un très grand engagement de l'ensemble des opérateurs pour que les passagers retrouvent la confiance. Parce que ce qui va se passer dans les prochaines semaines va très largement déterminer dans les transports en commun, les avions, les trains, les bus, les navires, va très largement déterminer le retour de la fréquentation. Et nous avons besoin de transports en commun partout en France.
Mais on
n'imposera
pas d'avions, de trains, cette distanciation.
Parce que ce sont aussi les modes les plus écologiques.
Donc on n'imposera pas cette distanciation. Guillaume
Roquette. Absolument.
L'État a garanti un prêt de 7 milliards d'euros à Air France, c'est énorme. Avez-vous demandé à l'opérateur des contreparties en termes de productivité ?
D'abord, les contreparties, elles sont pour partie connues, parce qu'Air France, il y a 18 mois, a proposé un plan stratégique où elle prend, la compagnie, le groupe d'ailleurs, Air France KLM, prend des engagements sur la performance économique et sur la transition écologique. Donc ces contreparties sont connues, et évidemment, ces contreparties sont gravées dans le marbre dans le cadre du plan de soutien de 7 milliards qui a été posé par l'État, en tout cas, dont l'État s'est fait écho ces derniers temps. Il est évident qu'Air France va devoir adapter son modèle, parce que d'une part, personne ne connaît la connectivité, personne ne connaît l'état de santé du trafic aérien à l'aune de la fin de cette crise. Il y aura forcément des compagnies qui seront en difficulté. Il y aura forcément une façon de voyager qui va peut-être un peu différer par rapport à ce que nous connaissons actuellement. Et il y a aujourd'hui des substituts ferroviaires qui peuvent effectivement être plus praticables. Je prends des exemples très récents. Hein. Nous avons ouvert en juillet 2017 de mémoire la ligne entre Paris et Bordeaux. Un grand nombre de passagers qui prenaient l'avion entre Bordeaux et Paris prennent aujourd'hui le train.
Précision là-dessus, donc ça c'est la contrepartie écologique, c'est donc Air France devra supprimer ses vols courts, mais si c'est une compagnie low cost qui installe le vol Paris-Bordeaux, Air France aura tout perdu, parce que c'est la concurrence qui aura ramassé le marché.
Non mais là, vous avez évidemment raison, et il est inenvisageable de demander à Air France de supprimer des liaisons domestiques entre Nantes et Orly, par exemple, ou Bordeaux et Orly, et de laisser s'y installer des opérateurs low cost. C'est pour ça que nous allons réguler, nous avons une autorité de la régulation, nous allons réguler effectivement politiquement les choses. Nous allons aussi concerter les régions, parce que tout ça s'organise territorialement. Vous savez que bien souvent, les collectivités subventionnent une partie de ces lignes. Donc tout ça va s'organiser, mais il est évident que nous n'allons pas demander à Air France de se retirer pour qu'un opérateur low cost, qui par ailleurs, parfois, à des pratiques commerciales qui se discutent, viennent rafler la mise pour
question
dire,
mais donc,
dire
pardon, mais
populaire.
Donc vous interdirez aux opérateurs low cost ce genre de vol ?
Donc dès lors que nous organiserons le substitut par voie ferroviaire, il est évident que si Air France ne peut pas opérer cette ligne, nous ne permettrons pas à d'autres opérateurs d'opérer ces mêmes lignes. Vous savez, il y a un système de régulation qui fonctionne assez bien, hein, ça s'appelle les créneaux des aéroports, donc nous savons le faire.
Très rapidement, toujours sur Air France, est-ce qu'il faut s'attendre à un plan de départ volontaire, voire à des licenciements ? C'est le cas dans beaucoup de compagnies aériennes de grande envergure, comme British Airways, avec 12 000 suppressions d'emplois, ou 3 000 chez Ryanair, 3 450 chez United Airlines. Est-ce qu'il va y avoir ce genre de plan chez Air France ?
Très rapidement, d'abord, la crise est inédite, et quand on pense qu'Air France fait une dizaine de vols par jour aujourd'hui, quand elle en fait 1 000 au quotidien, on s'aperçoit du caractère aigu de la crise. Deuxièmement, l'État est au rendez-vous, et c'est en mettant effectivement ces 7 milliards que nous sauvons des dizaines de milliers d'emplois. Je rappelle qu'il y a entre un peu plus de 45 000 emplois dans le groupe Air France. Et troisièmement, Ben Smith a raison d'être lucide sur la gravité de la situation et d'engager des discussions avec les syndicats, parce que je l'ai moi-même vécu en 2008, la France a tardé à s'adapter à la crise. Et ce faisant, Air France a perdu beaucoup de temps et a condamné beaucoup d'emplois dans le temps. Donc il faut, dans les crises qui sont profondes et aiguës comme cela, réagir rapidement. Ben Smith a raison d'engager ce
discussion. Le patron d'Air France. Donc il peut y avoir une adaptation au niveau de l'emploi.
Oui, des discussions en vue de suppression d'emplois ?
Mais vous savez que la plupart des suppressions d'emplois qui ont d'ailleurs été évoquées par Ben Smith passent par des plans de départ volontaires. Il y a une démographie Air France qui fait que beaucoup de personnes, d'agents, sont proches de la retraite. On peut envisager des plans de départ anticipés.
Donc combien de salariés d'Air France pourraient être touchés
Je n'ai pas ce chiffre-là et c'est, vous voyez, Ben Smith a annoncé des discussions, il n'a pas annoncé des suppressions et certainement pas de chiffres pour les suppressions. Donc laissons les discussions se faire. Nous avons à Air France des syndicats qui sont responsables, je les salue, je les connais bien. Donc laissons les discussions se faire et regardons aussi ce que va être la fin de crise. Personne ne sait, ni vous ni moi aujourd'hui, dire quand le trafic va reprendre, quel va être le degré de retour, ou en tout cas la dynamique de reprise dans le transport aérien, tout ça. Et quand même,
Adrien,
je rebondis sur ce que vous dites, Jean-Baptiste Djebbari. Est-ce que, sans être capable de le dire avec certitude, vous avez au moins un horizon à donner à ces compagnies aériennes d'un possible retour à la normale? On a parlé d'Air France, mais il y en a beaucoup d'autres qui vous demandent également à être aidés, dans des montants moindres certes, mais qui expliquent sinon que leur survie à elles sera également menacée et leurs emplois au passage.
Bon, d'abord, je peux vous dire ce qu'on fait politiquement. C'est-à-dire que on a commencé à discuter avec la Commission européenne et avec des pays partenaires. Je nommais tout à l'heure l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne pour 1) harmoniser les mesures sanitaires et 2) coordonner les calendriers de reprise. Chacun comprendra que c'est à ces conditions-là qu'on pourra repartir de façon ordonnée. On a un premier rendez-vous important dans un conseil des ministres des Transports début juin. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 5 juin. Ce sera un moment très important pour poser ce cadre politique là. Et puis deuxièmement, on parlait d'ordi tout à l'heure, on voit bien qu'une partie de l'équation est dans les mains des compagnies aériennes. Une partie de l'équation importante est évidemment dans l'évolution de la situation sanitaire. J'ai eu l'occasion de le dire, mais je le réitère ici. Et puis, il y a le comportement des Français et des passagers d'une manière générale. On a encore du mal à l'évaluer.
Alors justement, dites-nous là-dessus, Jean-Baptiste Djebbari, très clairement. Est-ce que certains dirigeants d'entreprise disent que le retour à la normale de la fréquentation dans le secteur aérien, ce ne sera pas avant 2022?
Mais par exemple, Airbus, qui de fait souffre beaucoup de l'arrêt des compagnies aériennes, et qui envisage un retour, en tout cas 30% d'activité en moins pendant 2 ans, n'envisage pas de retour à une activité connue avant le Covid, avant effectivement 2 ans. Ça reste tout ça des projections, c'est très compliqué à illustrer ou à documenter, mais c'est vrai que de toute façon le trou d'air est d'une importance considérable.
Mais est-ce que vous allez aider d'autres compagnies qu'Air France, Jean-Baptiste Djebbari? Pardon, juste que ce soit très clair et puis on va devoir avancer.
Je réponds très concrètement à cette question. Ah, bien sûr. Mais d'abord, nous aidons toutes les compagnies au travers des mesures générales que vous connaissez, les prêts garantis par l'État, les reports de charges, l'activité partielle, toutes les compagnies. Nous avons des mesures spécifiques à l'aérien et toutes les compagnies en bénéficient. Et après, nous regardons cas par cas les dossiers des compagnies aériennes. J'en cite quelques-unes, Air Austral, Corsair, qui nous ont fait des demandes particulières. Nous traitons ces cas-là de façon très spécifique en lien avec Bercy. Nous leur proposons des solutions adaptées. Les cas diffèrent. Air Austral, vous avez un actionnariat public. Les choses avancent très correctement et assez vite. Corsair, nous continuons à discuter, mais évidemment, nous tentons d'apporter une solution
on vous a entendu
à chaque
sur
compagnie
ce point.
Et nous faisons aussi appel aux actionnaires. Aux actionnaires, et c'est important de le dire.
C'est-à-dire aux actionnaires, vous leur demandez de ne pas prendre leurs dividendes?
C'est-à-dire aux actionnaires, nous leur demandons d'accompagner. Chacun fait un effort. L'État fait des efforts considérables. Et quand vous avez des groupes qui sont actionnaires, par ailleurs des groupes qui parfois vont bien, nous leur demandons de faire leur part, en tout cas, de prendre effectivement leur part de la tâche.
Autre secteur qui s'inquiète, c'est bien sûr la SNCF. Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, a expliqué vendredi à l'occasion de votre conférence commune, conférence de presse commune, qu'on en a pour un an avec ce virus, je le cite. Quand entrevoyez-vous, Jean-Baptiste Djebbari, le retour à la normale dans les trains? Aujourd'hui, c'est 1 siège sur 2 qui est supprimé à la vente.
Je ne connaissais pas les compétences épidémiologiques de Jean-Pierre Farandou, je le taquine un peu, mais ce que je sais en tout cas, c'est que la stratégie, c'est, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est le plus de trains possible pour les trains du quotidien. Et c'est vrai que sur les trains longue distance, nous continuons à réguler. Nous avons 20% des TGV et des intercités qui vont rouler à compter du 11 mai et nous bloquons la capacité d'emport maximale à 50%. Ça a évidemment un impact pour la SNCF, parce que la SNCF vit essentiellement du TGV. Donc nous allons, au gré de la situation sanitaire, améliorer encore l'offre et permettre petit à petit à la SNCF de retrouver des marges d'efficacité économique. Nous ferons, je l'ai dit avec Jean-Pierre Farandou, le bilan objectif des pertes pour la SNCF. Il a lui-même posé des chiffres. Il a dit que la grève de décembre, janvier, février avait coûté 1 milliard d'euros. Il a dit qu'en l'état, effectivement, la perte de recettes s'élevait à 2 milliards d'euros. Donc nous ferons ces travaux très sérieusement à la fin de la crise pour rester sur une trajectoire d'assainissement financier, très important, et en même temps améliorer l'offre de services à mesure que l'épidémie s'éloigne.
Donc vous lui dites qu'il n'est pas épidémiologiste, donc ça peut être plus rapide, un siège sur deux, pas pendant un an. Guillaume Roquette.
Mais est-ce que vous faites le même raisonnement pour la SNCF que pour Air France ? Pour la SNCF que pour Air France, c'est-à-dire s'il y a une activité longuement déficitaire, il faudra supprimer des emplois.
Non, d'ailleurs, Jean-Pierre Farandou a eu un mot courageux vis-à-vis de ses troupes. Il a dit qu'effectivement, en fonction de la dynamique de reprise du trafic, en fonction du retour des passagers, du caractère durable ou non de la crise, il aurait des discussions avec les syndicats. Il l'a dit de façon très transparente.
Oui. Enfin,
de façon très structurelle. Non, mais il a été très clair. Il a dit que ça aurait des conséquences, par exemple, sur le nombre de recrutements. Donc, il a été très clair sur le sujet. Et vous savez, les cheminots de la SNCF, ils ont connu beaucoup de crises récemment. Ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Ils voient l'évolution à la fois de l'appétit pour le mode ferroviaire, mais ils comprennent la gravité de la crise. Et moi, je fais confiance aux syndicats responsables à la SNCF, notamment avec qui nous avons pu construire des choses intéressantes.
Et sur les menaces, justement, de certains syndicats d'exercer leur droit de retrait, vous pouvez faire un point là-dessus. Est-ce que le risque est réel à la SNCF ?
Bon, d'abord, il y a eu un dialogue social quasi permanent, à la SNCF comme à la RATP, comme ailleurs. Il y a eu très peu de droits de retrait. Et moi, je l'ai dit, l'objectif, c'est bien la priorité absolue de l'exploitation et la sécurité des personnels et des usagers. Et nous avons été clairs sur le fait que s'il y avait des dysfonctionnements d'ordre public ou si les mesures sanitaires étaient insuffisamment respectées tant pour les opérateurs que pour les voyageurs, nous prendrions des restrictions supplémentaires. Je crois avoir été clair sur le sujet et je pense que c'est de nature à les rassérener.
Deux petites questions encore, Jean-Baptiste Djebari, sur la SNCF pour en terminer. On parlait tout à l'heure de la qualité de l'air dans les avions. Est-ce qu'on pourrait envisager à terme installer le même système de filtrage d'air dans les trains? Je pense en particulier au TGV. Et puis, on a entendu également vendredi, la patronne de la RATP expliquer qu'il serait interdit de boire et de manger dans le réseau francilien pour ne pas avoir à retirer son masque. Est-ce que ça s'applique également, pareil, au transport grande ligne de la SNCF?
Je réponds par cette dernière question et je rembobine. C'est une mesure de bon sens dès lors qu'on se dit que chacun doit porter un masque et qu'il faut mieux éviter de toucher son masque pour que celui-ci ait une protection. Deuxièmement, vous avez raison de dire qu'à l'intérieur des trains, la circulation des flux, alors l'air est renouvelé dans les TGV tous les 6 minutes, mais il n'y a pas les filtres, pas de filtre comme il en existe dans les avions. Et je pense que c'est un progrès que nous allons observer dans la construction des trains. Je renvoie ça aux constructeurs ferroviaires, mais chaque crise, finalement, fait naître des opportunités, et cette opportunité-là d'être plus sécuritaire à bord des trains, des navires et de tout mode de transport est évidemment quelque chose qui se regardera très précisément et qui sera réalisé à mon avis de façon très précise.
Et pour ne pas toucher son véhicule de transport. Pour ne pas toucher son masque, ça veut dire qu'on va fermer les buvettes dans les trains?
Oui, ça veut dire qu'effectivement, à ma connaissance, et les opérateurs pourront préciser, mais à ma connaissance, effectivement, on minimise les contacts entre les usagers et les opérateurs, et ça passe effectivement par la restriction de ces services de restauration à bord.
C'est entendu. Jean-Baptiste Djebari, je parlais du vélo en préambule de cette émission. Il y a un plan vélo au niveau national, mais il est très loin de ce qu'ambitionnent les autres grandes villes européennes. Est-ce que vous envisagez une prime nationale à l'achat d'un vélo électrique? C'est le cas en Île-de-France, à hauteur maximum de 600 euros. Est-ce que vous prévoyez cette aide?
Alors d'abord, vous dites que le plan vélo est un petit plan, mais je rappelle quand même que c'est 350 millions d'euros sur 7 ans, donc c'est pas tout à fait rien, le plan vélo, que par ailleurs, nous avons annoncé de nouvelles mesures, notamment un coup de pouce pour la réparation des vélos, parce que nous savons très bien qu'il y a des dizaines et des centaines de milliers de vélos qui parfois
euros.
Ne roulent pas parce qu'ils ne sont pas réparés, donc nous avons 50 euros, nous avons mis ça en place, Elisabeth Borne l'a rappelé il y a quelques jours, et qu'effectivement, il y a un appétit tout à fait important pour les vélos. Je le dis, nous visons de tripler la part du vélo. Nous partons de bas, nous partons d'environ 3-4%. Nous envisageons que le vélo représente 10% des déplacements, notamment
dans les zones urbaines. Est-ce que vous envisagez une prime à l'achat?
Eh bien, écoutez, j'aurai l'occasion d'en discuter avec les uns les autres, mais je rappelle quand même que, de par la loi, la compétence des mobilités, l'organisation des mobilités, c'est aussi les régions, et que c'est parfaitement bien que l'effort soit partagé entre l'État, qui, je le dis, investit quand même massivement sur les prochaines années, et les régions qui, en proposant ces primes, font ce pour quoi elles ont la compétence.
Adrien Gindre.
Je voudrais que vous nous éclairiez, Jean-Baptiste Djebbari, sur un point encore concernant les masques. Il serait obligatoire dans les transports en commun. Vous avez expliqué tout au long de cette émission que c'était important de laisser les autorités organisatrices, les régions, on parlait tout à l'heure de Hauts-de-France, gérer les choses elles-mêmes. Qu'en est-il pour le port du masque dans l'espace public? Encore un maire qui prend un arrêté en sens, le maire de Nice, Christian Estrosi. Est-ce que vous considérez qu'il est bon de le laisser agir ainsi, voire de lui donner un cadre juridique pour cela, ou au contraire, est-ce que vous condamnez cette décision?
Moi, je dis ce qu'a pu dire le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire que le port du masque, il est recommandé, dès lors qu'on estime qu'il a un intérêt, notamment quand vous allez faire vos courses hier. Je suis allé faire mes courses hier, j'ai mis un masque. Bon, est-ce que pour autant il doit être obligatoire partout? Et est-ce que M. Estrosi a les moyens, et tout tombe, est-ce que M. Estrosi a les moyens de contrôler en tout point et en tout lieu de la situation le port du masque? Je ne sais pas, je m'interroge. Donc, poser des mesures qu'on est incapable de contrôler et éventuellement de sanctionner, ça pose
question. Oui, mais vous comprenez que ce message, vous comprenez que ce message est confus pour les Français. Valérie Pécresse qui recommande ce matin le port du masque eh bien, dans l'espace public. Vous nous dites que vous, personnellement, vous le portez quand vous allez faire des courses. Pourquoi ne pas conseiller aux Français eh bien, de porter ce masque dans l'espace public pour que les choses soient plus claires?
Mais moi, je vous réponds, j'ai bien lu les avis successifs des scientifiques. Les derniers avis nous disent qu'on doit porter le masque.
Mais il faut une réponse politique, en l'occurrence.
Qu'il est recommandé de porter le masque dès lors... Non, mais attendez, je vais répondre politiquement. Qu'on doit porter le masque dès lors qu'on n'est pas en mesure de respecter la distance des 1 mètre. Dans les transports en commun, c'est évidemment le cas parce qu'il y a une grande affluence. Quand vous allez faire vos courses, c'est vrai que vous avez tendance à croiser des gens, raison pour laquelle moi, à titre personnel, j'ai porté un masque. Je ne porte pas de masque quand je vais faire mon footing. Je ne porte pas de masque quand je me déplace dans la rue avec mes proches. Je ne porte pas de masque. Et c'est ma liberté que d'agir ainsi. Donc politiquement, je vous réponds, liberté, responsabilité. Je pense qu'il faut laisser à chacun aussi la capacité de se déterminer en fonction du niveau de protection qu'il veut avoir pour lui-même. La France est une terre de liberté.
Et pourquoi pas aux maires à ce moment-là de le faire? Eh bien, puisque vous vous reposez sur les maires pour beaucoup de mesures, pourquoi ne pas les laisser faire ce qu'ils souhaitent sur leur commune?
Mais moi, je dis que le sujet politique pour les maires, ce n'est pas tant le fait d'édicter la mesure que d'en vérifier l'efficacité. Si vous dites port du masque obligatoire partout et en tout lieu dans l'espace public, comment le contrôlez-vous? Et c'est ça, quand vous édictez une norme dans l'espace public, quand vous faites de la politique au sens poser des normes pour la cité, il faut que ces normes soient respectées, sinon d'ailleurs vous vous décrédibilisez. Donc moi je dis, je n'ai rien à dire à M. Estrosi, je dis juste que quand on pose une norme, il faut pouvoir en vérifier l'efficacité, et j'ai un doute sur le fait que cette norme soit respectée.
Bien, il a entendu votre message, il vous répondra certainement. Adrien Jean.
Dans les décisions de maire, il y a également par endroits, c'est le cas à Paris, l'élargissement de certains trottoirs, en neutralisant par exemple des voies de stationnement, décision prise par Anne Hidalgo à Paris. Est-ce que c'est une décision que vous soutenez, qui vous paraît là pour le coup aller dans le bon sens?
Mais je crois que c'est un peu le sens de l'histoire, ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça s'est toujours passé comme ça, y compris à Paris. Vous savez qu'il y a eu une épidémie de choléra dans les années 1830 et que ça a entraîné le plan Haussmann, le fameux plan Haussmann qui a vu s'élargir les roues, les rues et très largement modifier l'architecture. Donc je crois que moi, je renvoie évidemment ça aux décisions des élus. Ils sont élus pour ça, ils s'engagent politiquement pour ça. Mais je pense qu'effectivement, reconcilier ou recomposer la part de chacun dans l'espace public, avoir des trottoirs plus larges, avoir une place pour les vélos plus importante, je pense que ça, c'est le sens de l'histoire. Mais ce n'est évidemment pas à moi aujourd'hui de le dire et de vouloir l'imposer partout dans le territoire.
Les trottoirs,
ça correspond
oui, les masques,
à des logiques territoriales et ça correspond à des engagements politiques de chacun.
Une question politique avant d'en venir à question nette rapidement, Guillaume Roquette.
Oui, un certain nombre de députés En Marche à l'Assemblée nationale voudraient quitter le parti, créer leur propre groupe, ce qui pourrait faire perdre à votre majorité sa majorité absolue. Que dites-vous à ces frondeurs?
D'abord, certains, en tout cas les noms que j'ai vus, j'en connais un certain nombre, mais je les connais très bien. Moi, je dis que ça dépend pour quoi faire. Si c'est pour effectivement faire des tribunes et être dans l'injonction plutôt que dans l'action, moi je trouve que c'est un projet qui n'est pas très fédérateur. Et je pense qu'en plus, politiquement, nous sortons d'une ère extraordinairement gestionnaire et qu'on a un besoin d'action. Dans mon secteur, par exemple, on n'a rien inventé. depuis le Concorde et le TGV. Et on a tout à faire. Donc moi, je leur dis, en tout cas, je leur dis qu'on a dit beaucoup de choses, que tout a été dit et que maintenant, il faut agir. Et je les invite plutôt à nous rejoindre sur le terrain de l'action que nous avons entamé et que nous allons encore accélérer.
Donc vous dites, ne partez pas. Voilà le message. Question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste Djebbari.
Beaucoup de questions, Marie-Pierre, avec des questions très précises et on attend de vous des réponses courtes et concrètes, Monsieur le Ministre. Marie-Pierre.
Oui, on commence tout de suite avec une question de Charlie. Vous avez annoncé que l'attestation employeur est disponible depuis hier 18h, mais lui, il ne la trouve pas. Donc où est-ce qu'il peut la télécharger ?
Alors, il faut qu'il l'essaye sur le site de la région Île-de-France, du préfet, de la préfecture de l'Île-de-France, et il devrait la trouver puisque je l'ai trouvée moi-même.
D'accord, très bien.
Okay. Deuxième question.
Autre question, ça concerne toujours l'attestation employeur, donc pour se déplacer dans les transports en commun. Mais des internautes nous interrogent sur le fait qu'ils sont particuliers et qu'ils emploient une assistante maternelle ou une femme de ménage. Comment ça se passe pour eux ? Qui fournit l'attestation ?
Bah, c'est prévu dans le décret, c'est une auto-attestation en quelque sorte. Et c'est prévu, et je crois même que c'est prévu dans les cases que vous cochez sur l'attestation en question. Et donc évidemment, c'est... Ces cas ont été analysés, observés. Et je le dis, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de nous donner quelques jours pour que les choses se fassent sans stress. Raison pour laquelle les contrôles ne commenceront que mercredi 13 prochain. Mmh. C'est pour que chacun puisse aborder les choses en sérénité, que ces questions-là très pratiques puissent trouver réponse sans le stress du contrôle et de la sanction.
Autre question, Marie-Pierre.
Oui, vous vous en doutez vraiment, le retour dans les transports en commun pose beaucoup d'inquiétudes. C'est notamment le cas de Laurence. Elle nous a écrit, elle est aveugle, elle travaille au ministère des Affaires étrangères et avant le confinement, elle avait l'habitude de prendre le RER avec son chien guide. Mais aujourd'hui, elle s'inquiète, elle se dit, où sont les repères pour les personnes non-voyantes ? Est-ce qu'il y aura donc des repères qui seront mis en place pour eux pour respecter les distances ?
Il y aura beaucoup d'agents qui vont accompagner notamment ces publics plus fragiles. C'est 1200 agents à la RATP, par exemple, qui vont agir, ce qu'on appelle les gilets rouges. Et je ne doute pas que ces agents sauront avoir une attention très particulière vis-à-vis de ces populations fragiles comme cette dame.
Et concernant justement les sans-domicile fixe qui avaient l'habitude de trouver refuge dans les stations de métro avant le confinement, comment ça va se passer pour eux à partir de lundi ? Est-ce que leur présence ou non sera interdite dans les stations de métro ?
Non, mais vous savez qu'en la matière, l'interdiction fait peu. Beaucoup de politiques s'offusquent à échéance régulière de la présence des SDF. La réalité, c'est qu'il faut organiser la sortie du métro, il faut organiser l'accueil dans des conditions humaines et dignes. Nous avons en ce moment un certain nombre d'hôtels qui sont inutilisés. Donc moi, j'ai demandé à la préfecture Île-de-France de prendre ce sujet à bras-le-corps. C'est un sujet de préoccupation d'ailleurs aussi de Madame Pécresse. Nous partageons des points de vue assez forts sur le sujet. Mais l'idée, c'est pas l'interdiction, l'idée c'est l'action et trouver des mesures qui soient adéquates et qui soient réalisées dans l'humanité.
Merci pour ces réponses concrètes. Une dernière question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a réfléchi à imposer une quarantaine à toutes les personnes qui arrivent, que ce soit par voie aérienne, maritime et ferroviaire dans le pays. En France, ce principe de quarantaine n'est pas appliqué dans l'espace Schengen. Est-ce que vous envisagez de suivre l'exemple du Royaume-Uni ?
Eh bien, nous allons en parler avec nos homologues anglais. Le président de la République doit parler à Boris Johnson très rapidement. Jean-Yves Le Drian parle à son homologue à 12h30 de mémoire. Je parle à mon homologue en fin de journée. Il est évident que nous attendons des Anglais la réciprocité. Et donc, nous aurons ces discussions politiques exigeantes avec nos
voisins. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, Jean-Baptiste Djebbari ? C'est qu'à dire que s'ils font cela, eh bien, nous pourrions aussi faire la même chose dans le cadre de l'espace Schengen ?
Non, mais vous savez... On a vu les frontières se fermer à une vitesse incroyable avec des jeux non coopératifs des États. Ça se passe très bien d'ailleurs avec le Royaume-Uni depuis de nombreuses semaines. Nous souhaitons évidemment la réciprocité des procédures de part et d'autre de la Manche. C'est la moindre des choses, je crois que chacun le comprendra. Et donc la France souhaite que le Royaume-Uni fasse preuve de bon sens et de réciprocité vis-à-vis de ce qui a été produit et réalisé à leur égard.
Jean-Baptiste Djebbari, on arrive au terme de cette émission très rapidement. Comment vous expliquez que les Français ne vous fassent pas confiance ? Ils sont une écrasante majorité à ne pas vous faire confiance pour réussir ce déconfinement. Pourquoi, selon vous ?
Bon, vous savez, moi j'aurais du mal à répondre à cette question. Moi, ce qui m'importe, c'est que nous tentions de mener une action qui soit utile. J'ai l'impression que l'action que nous menons, elle est utile. Je pense que la crise, elle est profonde, que nous n'en mesurons pas encore toutes les conséquences. Et je pense que les Français pourront juger à l'aune, en 2022, de tout ce qui aura été fait. Et qu'on peut toujours commenter l'instant. Ce qui compte globalement, c'est le bilan et l'ensemble de l'action qui aura été réalisée à leur profit, qu'ils en soient convaincus.
Merci Jean-Baptiste Djebbari, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, une pensée pour nos aînés dans les EHPAD ou qui sont chez eux. À la semaine prochaine.